Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. En plateau aujourd'hui, l'auteur et journaliste syrien Omar Youssef Souleymane, l'astrophysicien canadien Hubert Reeves, l'écrivaine française Nina Bouraoui et les bédéistes Marc Jailloux et Bruno Martin pour un nouvel épisode d'Alix. Bonjour Bruno Martin.
Bonsoir.
Bonjour, ça dépend où on est. Tout va bien, ça marche. Voilà. La bande dessinée Alix est un monument, Bruno, une référence internationale. Votre père, Jacques Martin, qui a collaboré avec Hergé et Jacobs, fait partie des trois piliers de ce que l'on appelle la ligne claire belge. Ce personnage ne l'a jamais quitté dès 1948.
C'est ça, tout à fait, oui. Jusqu'à sa mort.
Jusqu'à sa mort, et voilà. Vous avez repris donc le flambeau.
Voilà, mais au niveau seulement de la gestion, moi je ne dessine pas. Et voilà, il y a Marc Jailloux qui est ici à côté de moi et qui est le dessinateur qui a repris donc les aventures d'Alix.
Oui, bonjour Marc Jailloux.
Bonjour.
Soyez les bienvenus, Alix part en Helvétie et nous allons apprendre des choses car le territoire helvète a été un enjeu pour l'Empire romain. Vous êtes parti sur le terrain enquêter d'ailleurs.
Tout à fait, grâce à Bruno Martin. Voilà. J'ai eu un très très bon guide.
Bon, merci, on vous retrouve dans un instant. Le dessinateur Marc Jailloux et donc Bruno Martin sont dans la librairie francophone. Nina Bouraoui publie quant à elle un nouveau roman, un livre social qui dévoile certaines de nos fissures qui peuvent nous faire basculer un jour. Vous entendrez aussi le témoignage du Syrien Omar Youssef Souleymane qui publie un roman choc sur les révoltes populaires en Syrie et l'inextricable situation politique.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme toujours, en France. C'est le retour de Mathieu Colombe. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence.
Toujours.
La ville des calissons.
Oui.
Mais vous aimez ça, les calissons?
Je déteste ça.
Non, mais ça, faut pas dire ça.
Je suis dans mon biberon, je peux pas aimer.
Oui, c'est ça.
Pas
votre famille est un peu liée aux calissons.
Aussi, ça joue.
Voilà, vous êtes libraire dans la librairie Goulard. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous adorez les calissons, vous?
Oui, oui. En fait, j'aime mieux ça que le chocolat.
Ah bah dis donc, ça vous servez vos pays respectifs, c'est magnifique.
N'est-ce pas?
Vous êtes libraire en Suisse, vous, dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Josiane Tourneau est au Canada, libraire à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Dans la librairie du Square, tout va bien pour vous?
Ben oui.
Ça a l'air. Déborah Damblon et elle en Belgique, comme toujours, dans la librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
En forme aussi, merci d'être avec nous en ce mois de janvier frisqué. Et bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
On commence toujours cette émission par une histoire personnelle, une anecdote drôle, émouvante, ce que vous voulez. C'est votre tour aujourd'hui Nina. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter?
C'est donc mon tour. J'ai choisi une histoire liée à mon travail, à mes années de jeunesse. C'était un jour de janvier, il faisait assez froid. J'ai monté les escaliers, j'ai ouvert la porte. Une petite femme m'a accueillie, m'a dit « tu es en retard ». J'étais pas en retard, j'étais même en avance. Elle m'a dit aussi « pourquoi tu es venue ?». Je lui ai dit « pour vous voir ». Et puis elle s'est assise, il y avait un journaliste derrière moi. On a commencé à la filmer et je me suis assise derrière elle parce qu'elle l'a exigé ainsi. Elle a commencé à parler de Raymond Queneau. Elle a commencé à parler d'un film qui était en train de se tourner d'après l'adaptation d'un de ses livres. Elle a dit ce n'était pas ça l'Indochine. S'il avait fallu adapter ce roman, il aurait fallu le tourner en banlieue. Il y a trop d'argent. Dans mon enfance, il n'y avait pas d'argent. Elle m'a encore regardée. Elle m'a dit à ton âge, j'avais les cheveux comme toi. Elle m'a dit tu viens d'où? Je lui ai dit j'étais avant chez Nathalie Sarraute. Elle m'a dit « Ah, Sarraute, elle va bien. Elle n'a pas eu d'amant autant que moi. Elle n'a pas eu l'alcool. Elle n'a pas eu les cigarettes. » Et puis, elle a dit « Je veux parler de Jean-Marie Le Pen. » Et on lui a dit « Non, il faut parler littérature. » Parce qu'aujourd'hui, on décrit l'itinéraire d'un premier roman éclairé par des grands auteurs. Et puis, elle s'est levée. J'avais un livre, j'avais un peu honte, mais je lui ai demandé un petit mot parce que je pensais que c'était le moment ou jamais. C'était mon idole. Elle a écrit... Anina, Nina. Elle a dit ça parce qu'elle a dit « Nina, Nina, ton prénom me fait penser à une chanson ». Et elle a signé très tendrement Marguerite Duras.
Ouais, j'en étais sûr. Je le sentais venir.
L'Indochine, bon, peut-être.
C'est une belle histoire, oui. Merci beaucoup. Nina Bouraoui est dans la librairie francophone cette semaine. Et voici Hubert Reeves. Il était dans la version télé de la librairie francophone le mois dernier sur RTS2, RTBF La 3, ICR TV, sur TV5 Monde. Voici un extrait de cette séquence pour ouvrir cette édition. Un livre d'entretien vient de paraître aux éditions du Seuil. Hubert Reeves est sur le plateau de la librairie francophone. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a reçu plusieurs fois dans la version radio. Vous êtes l'astrophysicien canadien spécialisé en physique nucléaire qui porte un regard aiguisé sur le cosmos mais aussi sur notre planète. Et vous confiez dans ce petit livre que j'ai ici, un livre d'entretien, vous confiez plein de choses et notamment vous dites qu'il est important de prendre conscience que nous faisons partie d'un système global avec le cosmos, la nature et les humains. Et l'équilibre, il est là. Sauf que le cosmos, Hubert Reeves, on n'en sait pas grand-chose, nous. Vous, oui, mais nous, pas grand-chose.
Bien sûr, mais c'est connu et c'est disponible. Si vous
c'est
avez
vrai.
Internet, vous avez tout ce qu'il faut, à des niveaux différents. Je crois que aujourd'hui, on ne manque pas d'informations. Et c'est ce que je trouve très bien. Maintenant, un étudiant qui serait un pauvre étudiant en Afrique peut avoir les cours des meilleurs ouais. professeurs de Cambridge University simplement s'il a un petit ordinateur.
Ouais.
Simplement parce qu'il y a beaucoup de cours enregistrés parmi les meilleurs professeurs au monde. Ça, alors, je trouve ça fantastique.
Et alors du coup, on sait des choses et on peut l'intégrer dans notre vie. Vous dites que c'est oui. important d'apprendre parce que ça nous permet de voir le monde différemment.
Ça nous permet de nous situer surtout.
Ouais.
Un enfant curieux, vous savez, un chat qui entre dans une pièce, il fait le tour de la pièce avant de s'installer quelque ouais. part pour voir ce ouais. qu'il y a. Les enfants, vers un âge généralement 10-12 ans, sont très curieux. D'où je viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Un peu plus tard, est-ce que la vie a un sens? Nous avons des questions, non pas des réponses définitives, mais enfin des informations qui sont importantes pour savoir ce qui s'est passé dans le cosmos,
ouais.
qui ont eu comme résultat que nous sommes là.
C'est ça.
Avec notre gros cerveau, ouais. avec notre intelligence, avec tout ça.
Dans cet ouvrage d'entretien, vous confiez des choses sur votre vie, Hubert Reeves. Vous dites par exemple que dans les années 40-50, au Canada, on vous inculquait l'importance de bien travailler à l'école. Et vous avez eu une éducation stricte, notamment avec votre père, très autoritaire. C'est grâce à lui, dites-vous, que vous êtes orienté vers les sciences parce que ça vous écartait de lui.
Oui, c'est ça. J'avais peur de lui. Alors
vous aviez peur de lui.
Loin.
Et alors, à l'époque, au Canada, il faut aussi fonder une famille très jeune, très tôt.
Oui.
Et à 22 ans, Hubert Reeves, vous êtes étudiant, oui. vous êtes marié, vous avez des enfants.
C'est ça. Enfin, j'attends le premier à 22
oui.
ans. Oui. Non, c'est sûr, on est très influencé par le moule social dans lequel on est. Je vivais dans un monde où il était bien de se marier, d'avoir des enfants, d'être un bon catholique, etc. Bon, ça prend un certain temps avant de réagir à tout cela. Mais on entre spontanément parce que c'est bien.
Ouais.
Et cette mention qu'on est socialement convenable, c'est lourd à porter, mais c'est réel.
Et ça vous a rendu heureux quand même?
Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses, pas toujours.
Pas toujours, parce qu'il a fallu travailler, ça a été compliqué, vous l'expliquez
oui.
aussi. Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter?
Bon, que nous pourrions habiter, je ne sais pas. Nous ne savons rien de cela. Je sais que mon opinion, mais c'est une opinion, c'est
oui.
pas quelque chose que je peux appuyer par des preuves scientifiques, c'est que dans cet univers, la vie est un phénomène très général. Je pense qu'il y a beaucoup de planètes, d'exoplanètes habitées. Mais je peux pas l'affirmer parce que j'ai pas de preuves. Et j'ai des collègues qui pensent le contraire. Donc c'est un bon sujet de discussion pour les jours où la télévision est en panne.
Oui, vous savez que c'est la discussion éternelle.
C'est la discussion éternelle.
C'est incroyable.
Mais moi, je le crois, mais je n'ai
pas. Ah, vous le croyez profondément?
Oui, mais c'est une opinion, hein.
Mais c'est bien, mais c'est intéressant d'avoir l'opinion d'Hubert Reeves. Vous dites qu'il faut faire attention à sa vie. Vous avez beaucoup consacré votre vie au travail.
Mm-hmm.
Et vous dites qu'à un moment, il faut faire attention de ne pas gâcher sa vie personnelle
oui.
au profit du travail.
Oui, et quand on a une famille, par exemple,
oui.
moi j'ai des moments de ce que je regrette, où j'aurais aimé passer plus de temps à m'occuper de mes enfants, c'est vrai, mais bon, maintenant j'essaie d'un peu de m'occuper de mes petits-enfants,
oui.
mais là aussi j'ai des problèmes.
Oui.
C'est des réalités, ça. Il y a plusieurs objectifs dans la vie, il y a la profession, il y a la famille, il y a tout ça, les amis, tout ça.
Bon, il y a aussi quelques inquiétudes, Hubert Reeves, dans ce livre. Vous vous inquiétez de savoir si notre planète sera encore habitable dans 50 ans.
Ça.
Et vous donnez, par exemple, l'exemple de New Delhi, avec un ciel qui est tellement pollué
qu'on n'y voit pas toujours la couleur. Ça vous inquiète beaucoup. Vous dites peut-être que dans 50 ans, la planète ne sera plus habitable.
Ah non, je ne dirais pas ça. Je dirais pourrait ne pas. Moi, je me méfie des gens qui font des prophéties. Les prophéties, généralement, les gens se trompent. À chaque fois qu'on peut comparer les prophéties, par exemple, en 1900, on a publié un livre qui était, d'après vous, que sera la planète en 2000, donc 100 ans plus tard. Eh bien, vous le lisez, vous rigolez. Il n'y a pas un mot sur l'informatique, il n'y a pas un mot sur la numérique, tout cela. Je crois que les êtres humains sont très malhabiles pour prévoir. Il faut savoir que l'avenir n'est pas écrit, qu'il sera ce que nous faisons et qu'il faut se mobiliser pour que la Terre reste habitable et agréable. Rien n'est écrit, l'avenir est inconnu, il y a de l'espoir parce qu'il y a cette mobilisation qu'on trouve un peu partout, et je suis pas du tout pessimiste, je pense que l'avenir est inconnu et qu'il faut que nous nous réveillons tous pour garder la planète habitable.
Tout en étant dans la mesure aussi, vous dites que il faut peut-être manger de la viande, peut-être aussi que les enfants ont besoin de protéines animales pour grandir.
Bien sûr.
Il ne faut pas être dans l'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Voilà, il faut se méfier de la radicalité.
Et le livre d'entretien d'Hubert Reeves, Je chemine avec Hubert Reeves, est paru aux éditions du Seuil. Vous pouvez retrouver cette librairie francophone version télé sur notre site internet et en replay sur la RTS, la RTBF et ici RTV. Ce dimanche, vous pourrez voir la nouvelle édition sur TV5 Monde à 19h avec Alain Mabankou, Cosé, Thomas Fersen, Nadine Monfils et Philippe Torreton. On se croirait dans un péplum, et ça tombe bien, puisque Bruno Martin et Marc Jailloux sont avec nous pour le nouvel album d'Alix sur cette musique du film. Marc Jailloux, vous avez reconnu ?
Oui, Hans Zimmer, Gladiator, évidemment.
Exactement, bravo. Qui peut servir donc de BO à cette BD. On part chez les Helvètes. Alix va tenter, sur ordre de César, de s'assurer de la loyauté des Helvètes vis-à-vis des colonies romaines. Le pays n'est pas sûr, mais de nombreuses tribus ont accepté la présence et l'influence de Rome. Marc.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, effectivement, on sait maintenant que contrairement à ce qu'on a voulu nous enseigner pendant de nombreuses années, c'était pas les Romains contre les Gaulois ou les Celtes. C'était effectivement beaucoup plus complexe que ça, et des Celtes qui pouvaient prêter allégeance aussi aux Romains.
Ouais, dans cette BD, les Helvètes sont présentés comme étant retors et combatifs, Bruno.
Ouh là là, ça l'a prêté de bien de mauvaises intentions. Moi, ce qui m'a touché dans l'histoire des Helvètes, en tout cas, c'est, enfin, je trouvais ça vraiment d'actualité. C'est un peuple, voilà, qui veut migrer suite à toute série de difficultés. Et puis, ben, c'est une tragédie shakespearienne, en fait. Ils sont massacrés par César et puis ils sont obligés de rentrer chez eux. Ouais. Et leur civilisation, ben, c'est le sort du signe de leur civilisation. Dans deux, trois générations, leur civilisation va totalement disparaître.
Ouais. Alors, César a compris les enjeux. Parce que il a compris surtout qu'il fallait respecter et honorer le peuple helvète. Parce que le peuple helvète, dans votre BD, est capable de brûler ses terres pour ne pas se rendre. Est capable de partir au front en détruisant tout ce qu'il y a autour d'eux. Et alors, pour honorer ce peuple, il va envoyer Alix, dans votre histoire, avec une cargaison d'or, des offrandes. Il achète la paix avec des offrandes destinées aux divinités.
C'est cela, oui. En fait, on a fait une grande découverte en Suisse il y a une quinzaine d'années. C'est dans les sédiments des lacs qu'on a retrouvé toute une série d'objets métalliques précieux, semi-précieux, qui avaient été tout à fait déformés. Et on s'est beaucoup posé de questions. À quoi servaient toutes ces armes, tous ces bijoux qui avaient été jetés dans les lacs et en même temps rendus inutilisables. Et donc, voilà, les archéologues ont découvert que c'était pour honorer les dieux, que les objets qui avaient été offerts aux dieux ne pouvaient plus être réutilisés par les humains. Et donc, c'est parce à partir de ce moment, on s'est dit, mais voilà, il y avait toute une grande
conquête.
Voilà, une grande conquête, mais aussi
est-ce qu'on a acheté le peuple suisse, le peuple helvète à l'époque ?
Non, pas du tout, je pense pas. Non. Bon.
Certains Helvètes vont se poser en tout cas la question sur la disparition de leur culture. Mais... avec la présence accrue de Rome, comment ces deux modes de vie peuvent coexister sans que l'une ne cannibalise l'autre? Et là, Bruno Martin, vous êtes dans la ligne éditoriale de votre père. Parce que Jacques Martin avait imaginé cette BD aux allures de Péplum en puisant dans l'histoire passée, bien sûr, mais aussi dans l'actualité. On trouve dans Alix des sujets actuels.
Oui, tout à fait. C'est cette tragédie de peuples qui sont à l'étroit. Ils sont envahis par d'autres peuplades aussi qui cherchent à survivre à cette époque-là, à trouver des terres arables, à cultiver, à trouver...
C'est l'histoire de l'exil, de l'immigration.
Voilà, de l'immigration.
Qu'on trouve aujourd'hui.
Voilà. Et donc, voilà, qu'on veut aller ailleurs, ben, y en a des autres et ils veulent pas laisser la place. Et ouais. Voilà, c'est un peu tout ça qui se joue. Et c'était l'ambition, en fait, de faire aimer l'histoire avec un grand H et d'apprendre sur notre propre histoire ce qui se rejoue toujours.
Jacques Martin, qui a créé Alix en 1948 pour le journal de Tintin, il veut en faire un personnage intemporel. Du coup, vous avez réussi, grâce au grand dessinateur Marc Jailloux, à le faire perdurer. Alix, jeune Gaulois fidèle à César, c'est un peu l'antithèse d'Astérix, non Marc? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est un peu l'antithèse d'Astérix.
Sauf qu'Astérix, c'est 10 ans plus tard, hein. C'est
oui,
en 58.
Et sauf que, pour la petite histoire, le père d'Alix s'appelle Astorix.
Oui, c'est vrai.
10 ans plus tôt.
Oui, c'est vrai. 10 ans plus tôt. Mais vous pensez que Uderzo et Goscinny se sont un peu inspirés d'Alix à un moment?
Ils se sont connus, vraisemblablement.
Bah oui,
je sais qu'il y a eu des échanges. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans Astérix, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est du gros nez, entre guillemets, il y a aussi un travail de documentation sur les décors qui est assez important. Ouais. La différence de Jacques Martin, c'est que lui, ça a été vraiment le premier, je pense, dans l'histoire de la bande dessinée, à vraiment traiter d'une époque précise. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de mélanger des colonnes corinthiennes ou des colonnes d'une autre époque. Il fallait que ce soit précis,
c'est très précis.
Plus possible.
Bon, deux libraires ont lu le nouvel album d'Alix, La France et la Suisse. On va commencer par La France, ça vous convient?
Oui, parfaitement.
Parfait, avec Mathieu Colombe, spécialiste de bande dessinée, cela dit au passage.
Oui, de temps en temps. Si. Oui, non, c'est vrai.
Allez-y.
Alors, en fait, avec Alix, on a un problème, parce que Alix, c'est mon enfance, donc je ne peux pas être objectif. Hein. Je vais obligatoirement être partial, donc excessivement mauvais ou bien beaucoup trop enthousiaste.
Hein. Alors, ouais.
Voilà,
il transpire là en face.
Ouais,
hein.
Ouais. Alors j'avoue, j'ai été bluffé. C'est un épisode qui est plus vrai que nature. Le trait était respecté au millimètre près. Le scénario dans la lignée des anciens. La politique est très 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 bien rendue. Et même certains travers endémiques à Alix sont présents. Donc je ne peux dire aux amateurs que de foncer.
Ah bah voyez,
merci. On va le garder. Hein.
On va le garder, lui. Hein. Bon, je suis pas sûr que la Suisse soit d'accord, si Dominique Bressou, allez-y.
Si, absolument. Moi, ce que j'adore, de toute façon, avec les bandes dessinées d'Alix, c'est qu'on embarque dès les premières pages pour un voyage dans les temps antiques, qui est un territoire finalement aussi inconnu pour nous qu'un voyage dans le futur. Et en plus, là, dans cette BD, la part est laissée belle à l'imagination du lecteur qui vit dans l'Helvétie actuelle, comme moi, par exemple. Et c'est vraiment une BD que je vais recommander à mes clients, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ce qu'elle nous apprend.
C'est un peu de la bande dessinée à l'ancienne, hein, quand même, Bruno Martin.
Tout à fait. Oui,
est-ce que c'est pas un peu suranné? Moi, je me suis posé la question à certains moments. C'est très académique. Alors, je m'écarte un petit peu de Mathieu. Oui. Hein, je suis désolé, j'essaye de compenser. Mais j'ai trouvé ça très académique et un peu suranné, un peu à l'ancienne, un peu vieille école.
Oui, peut-être. Mais en même temps, voilà.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Mon ressenti, la lecture de la BD.
Mais... voilà, on peut dire la même chose de l'opéra, on peut
le dessin, les cases, la mise en perspective, la mise en image.
Alix, c'est un faux classicisme, en fait. Ouais. Moi, c'est ça qui est très important, en fait. C'est qu'on a l'impression de quelque chose d'extrêmement classique, mais en fait, c'est extrêmement moderne. C'est comme si vous prenez un tableau de Jacques-Louis David et vous dites, c'est très classique, on l'a déjà vu. Oui, mais c'est extrêmement bien fait, si c'est bien fait, quand on essaye de bien le faire.
Et c'est
donc,
bien
je pense
fait,
que c'est un classicisme intemporel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est à la mode, en fait, effectivement. Il n'y a pas d'effet. La recherche n'est pas d'avoir de l'effet pour de l'effet, pour que ce soit quelque chose de waouh, un waouh effect. Comme
vous l'avez pas adapté à la mode actuelle.
Non, on essaye de
le rendre. Vous êtes resté fidèle.
À partir du moment où une série réussit à fidéliser un lectorat pendant 70 ans, pourquoi changer les codes qui fonctionnent? Après, de toute façon, la modernité, elle est là. Mais elle est sous-jacente, elle est entre les lignes, elle est dans le sujet. Et on est aussi influencé, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, par l'air du temps et par aussi même graphiquement. Il y a des choses qui sont forcément un peu différentes de ce que faisait Jacques Martin.
Alors en tout cas, c'est un bel hommage à Jacques Martin qui nous a quittés il y a 10 ans tout juste. Hein, Bruno, votre papa est parti le 21 janvier 2010. Il est mort en Suisse.
Oui.
Il a toujours voulu qu'Alix continue après lui. Il a toujours voulu qu'un Alix se passe en Suisse, donc en Helvétie.
Voilà.
Et dans cette nouvelle BD, on va parcourir justement la Suisse avec cette histoire très intime que votre père avec la Suisse, puisque quand Hergé meurt, quand son ami meurt, il décide de quitter la Belgique et d'arriver dans le canton de Vaud, à côté de Lausanne.
Oui. Oui, le parallèle entre les deux dates est peut-être dû au hasard, mais voilà, mon père avait à ce moment-là 63 ans, je crois. Enfin,
84 par là,
oui. Oui, 61 alors.
Ouais.
Donc il a vécu.
Hergé meurt en 83 et lui s'installe en Suisse en 84, pour être précis.
Et donc, voilà, il s'installe en Suisse, il a toujours aimé la mer et la montagne, et voilà, c'est un peu les paysages, les grandioses qui le fascinent, et voilà, ouais. Ça c'est en Suisse.
Alors Marc Jaillot, vous êtes parti à Martigny, je suppose, à Avenches, puisque ce sont des villes que l'on retrouve dans votre bande dessinée. On apprend beaucoup de choses. On apprend quel était l'objectif des Romains. L'Helvétie, c'est un rempart face aux Germains. Et tout est là, l'enjeu est là, c'est un territoire très important pour l'Empire romain et pour César.
Oui, tout à fait. Quand on dit que César est magnanime, qui permet à... En fait, sur les 370 000 exilés, il y en a à peu près même pas un tiers qui sont revenus. Donc les chiffres peuvent être plus ou moins à revoir, puisqu'on sait que la seule source qu'on ait, c'est celle de Jules César dans la guerre des Gaules. Mais bon, en fait, il y a très peu qui sont revenus, finalement, un tiers. Mmh. Et effectivement, il les a surtout remis là pour s'assurer un rempart contre la Narbonnaise, justement, qui ouais. était vraiment... voilà, ça permettait d'éviter d'avoir des incursions germains... sur la Gaule.
Enjeu politique, enjeu économique.
Tout à fait, toujours.
Et c'est en cela qu'Alix est très ludique et apprend des choses. C'est un vrai livre d'histoire, même s'il y a une histoire un peu fantasque avec ce personnage qui, rappelons-le, est un ancien esclave gaulois qui prête allégeance à César. Voilà, c'est pas si simple. Bon, ça a dû exister en plus, hein, mais à chaque fois, Alix raconte un pan, finalement, de l'Empire romain.
C'est ça. On reste dans la fiction, bien oui. sûr, hein, le romancé. On n'a pas la prétention d'être des archéologues, mais voilà, on a envie de raconter l'histoire et de faire aimer l'histoire. Et oui. je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprendre de l'histoire. Et...
Bon, vous avez séduit nos libraires, en tout cas, vous l'avez entendu. Bravo, félicitations. 7 millions d'albums, hein, je crois, vendus à travers le monde d'Alix.
Oui, plus ou moins.
Entre
oui.
7 et 10. 7,
ouais. Oui, 7 et 8, oui.
Entre 7 et 8. Merci beaucoup, Bruno Martin. Merci Marc Jaillot. Alix en Helvétie est donc paru chez Casterman. Et puis, il y a l'Helvétie aussi, un autre livre illustré, oui. on va dire, qui raconte l'histoire de chacune des villes suisses qui ont été marquées par les Romains à l'époque. Merci beaucoup, vous restez avec nous ?
Oui, bien sûr.
C'est parfait. Dans un instant, le nouveau roman de Nina Bouraoui. Elle raconte le basculement d'une femme d'aujourd'hui, une femme forte qui craque dans un contexte professionnel humiliant. De la musique créole d'abord, avec le nouveau titre de David Walters dans la librairie francophone. Ooh. C'était David Walters avec Crier Mouaine.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Nina Bouraoui est avec nous pour Otage, un roman social très fort, très incarné, parfaitement maîtrisé. Les propos sont durs mais très justes. Il y a des passages qui sont d'un réalisme et d'une intelligence psychologique étonnante, comme cette sensation à un moment de sa vie, quand rien ne va plus, de vouloir disparaître, tout quitter, se dissoudre. Et vous utilisez ce mot disparaître, Nina Bouraoui, sans qu'il soit question d'ailleurs de suicide. Vous avez voulu disparaître un jour, vous, comme elle ?
Non, mais je crois que nous avons... tous et toutes la tentation inconsciente de disparaître. Nous avons de nombreuses raisons de disparaître. Je crois que la société, son écrasement, le travail, la violence peuvent évoquer ce sentiment, ce désir. Alors on peut disparaître de mille façons. On peut prendre sa voiture, ouais. Aller chercher des allumettes et ne plus jamais revenir. Ou alors on peut commettre un acte délictueux. Je n'ai aucune admiration pour les bandits. Mais
on peut franchir la ligne.
On peut franchir la ligne et c'est intéressant de savoir pourquoi la morale un jour peut vous lâcher.
Voilà. Et votre narratrice qui a la cinquantaine, elle est séparée récemment de son mari, elle a deux enfants, deux ados, et elle dit ne jamais avoir connu la violence. Mais c'est pas si évident que ça au fur et à mesure de la lecture. C'est une jeune femme forte qui a toujours enfoui ses douleurs. Mais un jour, il y a une fissure. Et vous écrivez, par cette fissure, tout est entré, doucement, avec méthode.
Oui, c'est une femme qui est dans le déni. Au début, elle dit qu'elle n'a eu aucune expérience avec la violence externe, aucune violence interne. Tous les cas ne portent pas de violence. Et c'est vraiment un livre sur la parole des femmes et sur le silence. Comment le silence recouvre, comment le silence cache les violences passées, la sauvagerie d'une adolescence. C'est un texte qui a été écrit en 2015, je le précise.
Oui, pour le théâtre.
Pour le théâtre, pour le Paris des femmes, qui est un festival consacré aux auteurs féminins. Il est resté de côté. Et aujourd'hui, bizarrement... il sonne extrêmement juste,
oui, complètement,
avec la parole libérée des femmes et aussi avec cette pression hallucinante sociale, économique.
Non, mais il y a une tension psychologique et surtout une analyse psychologique que vous réussissez parfaitement, Nina. Vraiment,
hein,
je le dis rarement, mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est complètement incarné et que vous avez vécu tout ça, ce que j'imagine n'est pas le cas et j'espère pour vous. Elle perd l'amour, cette jeune femme. Sa déception sentimentale, elle le vit comme un événement normal et prévisible. Au départ, c'est comme ça. Et pourtant, sa solitude, son drame personnel vont rejaillir sur toute sa vie sociale. Et elle constate que, dans ce cas, l'amitié n'existe pas. Une personne égarée, une personne en souffrance, devient une personne infréquentable.
Oui, c'est d'abord l'histoire d'une rupture amoureuse, d'un chagrin d'amour violent, parce que c'est aussi la fin d'une vie et la fin du désir de vivre normalement. Elle va se contenter d'un petit bonheur qui se réduit à l'exercice de la vie, l'usage de la vie, survivre. Payer sa maison, payer ses traites, aller au travail. Alors elle aime son travail, c'est une ouvrière, c'est la reine des abeilles, comme on les appelle. C'est une très bonne ouvrière, très proche de son patron. Et elle sait que le travail, c'est aussi la liberté, mais aussi la liberté de ne pas penser, de ne pas réfléchir.
On peut être heureux au travail, elle le dit, ça.
Mais je le pense.
C'est un accès au bonheur.
En plus,
oui,
je
mais
ça
peut, bien
vraiment.
Sûr, bien sûr.
Je le pense et je pense que le travail, oui, nous... Le travail, c'est le... Comment dirais-je, c'est aussi l'identité, c'est aussi soi, c'est ce qu'on est. Elle a le sens de l'effort, c'est une femme. J'aime le mot de bravoure parce que je trouve qu'il est noble, ce mot.
Et du coup, on a tellement confiance en elle que son patron, qui est très proche d'elle, elle travaille depuis 21 ans dans la boîte, va lui donner une mission. Une mission délicate, valorisante, mais plutôt...
Dégradante.
Aussi. Défaillante.
Défaillante, on va dire, exactement.
Oui. Il lui demande de faire des listes, parce qu'il y a un plan social en cours. Enfin, en tout cas, il imagine, parce qu'il se plaint tout le temps, il y a toujours des problèmes. Bon, c'est un patron d'entreprise. Et, enfin, c'est pas, tous les patrons ne sont pas comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il a des difficultés. Et il se dit, bah tiens, moi j'ai ma petite fourmi qui va me donner des indices et qui va faire le flic.
Oui, il lui demande d'établir des viviers. C'est un mot terrible, mais je crois que c'est un mot qui existe dans les grandes entreprises. Et les listes consistent à dénoncer qui travaille, qui ne travaille pas, qui met en péril l'entreprise, qui arrive en retard, qui a un potentiel mais n'en use pas vraiment. Et cette femme qui est très proche de ces petites abeilles, mais qui est aussi le bras droit et le bras armé de son patron, va établir les listes de façon très précise, consciencieuse, et va se dire que finalement, depuis qu'elle est seule, il n'y a plus trop d'amis, et que la CAGEX, elle est mariée à la CAGEX.
Allons jusqu'au bout, quoi.
Mais elle va transgresser sa morale.
Alors On s'arrête là pour l'instant. Oui. On va donner la parole aux libraires. D'accord. Et on va raconter très vite fait, parce qu'on va pas tout dire non plus, non, ce qui va se passer juste après. Les libraires, donc, qui ont lu votre livre, Nina Bouraoui. On commence avec le Canada et Josiane Letourneau à Montréal.
Alors, Otage est un titre bien choisi car ça a été ma position tout au long de ma lecture. Ce monologue émouvant, lucide, n'a jamais relâché son étreinte sur moi. On se demande au départ si c'est vraiment la narratrice qui perd la tête ou si c'est le monde finalement qui déraille. Le labyrinthe mental met tellement bien en évidence la cruauté implacable qui empoisonne parfois le monde du travail. Quelle claque de lucidité, de vulnérabilité totale je me suis pris, franchement bouleversant.
La Belgique avec Déborah Damblon, êtes-vous d'accord?
Ah oui, je suis d'accord. La grande force, la grande intelligence de votre texte est claire, je trouve, c'est de nous faire vivre de l'intérieur des choses qu'on nous rapporte souvent de l'extérieur. Et en faisant ça, vous parvenez à changer notre regard, parce que vous nous faites en quelque sorte passer de la théorie à la pratique. Vous nous faites sortir de nous et vous nous forcez à devenir compatissants. Vous nous forcez à toucher à cette compassion qui en fait est essentielle à la marche du monde et qui nous manque souvent tellement.
Voilà, on va avoir la suite tout à l'heure. Votre personnage craque, Nina Bouraoui. On va raconter donc la séparation avec son mari, l'isolement, la pression au travail, tout ça c'est trop. Elle franchit la limite. Ce jour où elle veut disparaître, on en parlait tout à l'heure, où elle veut fuir, elle va renoncer. Et elle va faire demi-tour. Elle va aller le soir dans le bureau de son patron, un couteau dans son sac.
Oui, elle va le prendre en otage. Mmh. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vraiment montrer, c'est comment une violence sociale peut réactiver une violence intime. Comment deux violences peuvent se rencontrer,
tout ressurgit à un moment.
Oui, parce que on n'oublie pas la violence du corps. On n'oublie pas, une jeune fille n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé.
On n'oublie rien et surtout on analyse sa situation, on analyse le monde. Vous écrivez ce passage qui est très révélateur, page 73, Nina Bouraoui. On nous fait croire que l'on est tous libres et égaux et que notre modèle est le meilleur des modèles. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux, car finalement, nous les petits, on n'a aucun droit, sinon celui de se taire. Bien sûr, on nous donne un travail, on nous fait confiance quand on est un peu plus malin qu'un autre. Mais au final, c'est toujours pareil. On se fait écraser par les plus forts et on se tait, car il faut bien bouffer. Alors on accepte, on continue, on suit la ligne toute tracée du berceau à la tombe, toujours dans l'humiliation. La main tendue car on n'a pas les moyens de claquer la porte. Et parfois on rêve de partir, de leur clouer le bec pour qu'il n'y ait plus d'humiliation car on a pu choisir. Et le choix, c'est la liberté.
Oui, les thèmes de mes romans sont toujours un peu les mêmes finalement, même si ce roman semble être un peu plus engagé. Mais je crois que je me suis engagée de par mon métissage, de par mon identité amoureuse. Mais je crois que là, c'était très important pour moi de dire... le creux qu'il y a de plus en plus et qui devient presque un vide, qui devient aussi presque le silence assourdissant entre les plus forts et les plus faibles, entre les patrons et ceux qui exécutent. Et finalement,
ça résonne en France, ça, aujourd'hui, vous imaginez
et
bien,
finalement, bien sûr.
C'est pas un hasard d'avoir écrit ça, si ?
Je sais pas, je pense que les écrivains écoutent le monde, l'absorbent. S'imprègne. Et c'est vrai que j'avais commencé à l'écrire en 2014, mais je crois qu'en 2014 déjà, nous avions déjà peut-être l'abandon de la politique, l'abandon de l'admiration du politique. Et il n'a fait que se creuser cet abandon.
Allez, on part en Suisse avec Dominique Bressoux qui a adoré ce livre, je crois, Dominique.
Oui, alors moi, dès le départ, je me suis sentie presque enfermée dans la logique d'autodestruction du personnage. Et ça tient évidemment à la forme du monologue, mais aussi au rythme obsédant de l'écriture. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est de comprendre étonnamment bien que pour sortir de sa résignation et de sa propre peur, et qu'elle doit elle-même porter des coups. Ma seule petite critique serait peut-être un certain manichéisme homme méchant contre femme gentille qui n'explique quand même pas tout.
Mais si, Nina, c'est vrai que c'est un roman. Ah si, alors allez-y, répondez, puis après j'ai quelque chose à dire.
D'accord, ok. Je trouve, non, parce qu'on pourrait penser vers qui je penche, mais pas du tout. Parce que moi je suis souvent le personnage masculin de mes romans.
Oui, c'est vrai en plus.
Mais je vous jure.
Oui, vous l'avez fait, c'est vrai, je les ai lus.
C'est vrai. Oui. Et je trouve qu'elle parle très bien de son homme. Elle parle très bien de son mari.
Elle parle pas de ça, notre libraire Dominique Bressoux. Elle parle pas de ça.
Oui.
Elle parle de ce que vous écrivez à plusieurs reprises. Vous dites que les situations de solitude et de souffrance sont plus difficiles pour les femmes que pour les hommes. Et souvent, vous comparez la difficulté pour les hommes de vivre des moments douloureux, de vivre des souffrances ou la solitude à la difficulté des femmes. Et vous dites, pour les femmes, c'est toujours plus difficile. Vous êtes sûre de ça ? On n'est pas tous égaux dans ce domaine-là ?
Je pense que physiquement, nous restons inégaux à tout jamais. Alors, je sais que un homme peut subir de la violence, de l'humiliation, de la sauvagerie.
Sur ce terrain, on est d'accord, Nina.
Mais
vous extrapolez
femme,
un petit peu. En tout cas,
non,
votre personnage extrapole.
Moi, je parle du viol, je parle de l'agression, je parle... Qu'est-ce
ne
que la nuit pour une
plus,
femme
hein, ne racontez pas tout.
Oui, mais oui. Je suis obligée de raconter parce que sinon, on va penser que je suis contre les hommes. Pas du tout. Moi, vous savez, j'ai une admiration infinie pour les hommes puisque j'ai voulu devenir un homme quand j'étais petite. C'est pour vous dire. Mais c'est pas du tout ça. C'est juste dire que la position des femmes, physiquement, restera toujours plus difficile. Et il y a cette scène dans cette voiture avec deux policiers, deux hommes qui ne sont pas en uniforme.
D'accord.
Si ça avait été deux femmes, elle n'aurait pas ressenti ce qu'elle a ressenti.
C'est vrai. Mais la solitude, les fractures, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme, vous croyez ça ?
Je pense que les femmes sont encore vulnérables parce que je crois que le monde appartient quand même encore à la force des hommes. Et quand je dis ça, je demande aux hommes, d'où aux hommes qui aiment les femmes, qui respectent les femmes, de nous aider. Mmh. Et je sais qu'ils sont nombreux. Aidez-nous, nous sommes frères et sœurs.
Voilà, le message de Nina Bouraoui. Merci beaucoup Nina.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'être revenue dans la librairie francophone. Otage est paru chez Jean-Claude Lattès, un livre qui a séduit tous nos libraires et l'un de nos coups de cœur de cette rentrée littéraire de janvier. À bientôt Nina, merci.
À bientôt.
Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Première partie avec Mathieu Colombe en France et un énorme coup de gueule.
Oh oui, on va parler du milieu littéraire et de l'affaire Matzneff. Parce que je trouve fantastique qu'il y ait encore des gens en 2020 pour s'étonner de ce qui s'est passé. Parce que Matzneff a tout écrit, tout le monde le savait. Et voir des acteurs du milieu tomber des nues, déjà ça me scie les pattes, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite l'autre truc, cette question horrible que je ne peux pas empêcher de me penser, c'est... Si Vanessa Springora n'avait pas été une éditrice, si elle faisait pas partie du Cénacle, est-ce que son bouquin aurait eu une seule chance d'en devenir un? C'est la question.
Double coup de gueule, quoi.
Ouais.
Bon, moi, je vais paraphraser Greta Thunberg. Je vais dire à tous ceux qui ont pris la défense de cet homme-là, qui est un pédophile avéré, puisqu'il défend cette thèse-là, on peut écrire sur la pédophilie et on peut la dénoncer aussi, mais on n'est pas obligé de s'y associer, loin de là. Comment osez-vous? Comment osez-vous, vous journalistes, vous acteurs du milieu littéraire, parisien notamment, comment osez-vous défendre un homme qui touche des enfants et qui se réjouit de la sexualité avec les enfants? Voilà. Nina Bouraoui, un petit commentaire?
Ah, mais je partage votre avis.
Désolé,
parce que...
j'ai une petite montée là.
Non, mais je comprends parce que c'est... Et puis, il faut savoir qu'un enfant... peut tomber amoureux d'un adulte, un adolescent peut tomber amoureux d'un adulte, et que le désir ne doit pas circuler dans l'autre sens, il va dans un seul sens. Mais en revanche, moi je trouve que c'est bien qu'elle ait parlé, qu'elle ait écrit, et ça je sais que vous êtes d'accord, et je crois qu'aujourd'hui en revanche, même si elle n'avait pas été éditrice, le texte aurait été publié.
C'est probable, mais effectivement, il y a un petit doute. Merci beaucoup pour cette intervention, Nina, Déborah Damblon. Un peu de douceur avec un coup de cœur dans le rayon des livres pour la jeunesse.
Ah ben oui, c'est pas facile de passer après ça, mais...
Désolée.
Je vous parle, c'est la vie. Et je vous parle justement d'un roman important que j'ai envie d'appeler d'apprentissage, même s'il raconte l'histoire de Fulmire le nain qui est fatigué de la vie et qui a décidé d'aller mourir au cimetière des nains. Et en chemin, il va rencontrer d'abord un chien, puis des enfants jumeaux. Et de fil en aiguille, il va reprendre sens à la vie. Il va sentir qu'il a besoin de protéger les autres. Et ce qui est formidable avec ce roman, c'est qu'on est à la fois dans la richesse du conte traditionnel avec les événements qui jonchent le chemin. Mais on est aussi dans un univers tout à fait original et cohérent, comme toujours avec Thomas Lavacherie. Et on est dans une réflexion et dans une empathie tout à fait contemporaine.
Thomas Lavacherie, que vous aimez beaucoup. On avait fait un reportage avec lui dans le centre-ville de Bruxelles, vous vous souvenez, avec des animaux?
Oui, tout à fait, au parc Maximilien.
Voilà, exactement. Le voyage de Fulmire, c'est aux éditions L'École des loisirs. Merci Déborah, à suivre le Syrien Omar Youssef Souleyman pour un roman-récit qui nous emmène dans les révoltes de la jeunesse en Syrie. Avant cela, voici le tout nouveau titre de Kerenan en duo avec Étienne Dao dans la librairie francophone.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi.
Chez moi le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous ensemble à la maison? Nous avons le temps.
mes habits parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires.
Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone.
Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste.
Je sais que tu seras au bout de mes voyages.
Je sais que tu viendras malgré tous les détours.
Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé. À notre image.
C'était Kerena Nandio avec Étienne Dao, La Ligne Droite.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Omar Youssef Souleymane, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez un roman témoignage, Le Dernier Syrien, chez Flammarion. Après Le Petit Terroriste qui racontait votre enfance dans une famille salafiste et votre fuite en France aussi, vous racontez les révoltes de 2011. La jeune génération a essayé à ce moment-là de faire une révolution et de renverser l'ordre social.
Exactement, voilà.
Et on en a peu parlé de ça.
En fait, ces jeunes, d'ailleurs le roman, il raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouvent à Damas en 2011, pendant le printemps arabe. Leur but, à la base, c'est renverser le régime, mais pas seulement pour des questions politiques, ouais, ou pour des raisons de politique, mais aussi effacer les conséquences de la politique du régime sur la société syrienne et lutter contre les islamistes. En fait, je peux dire qu'ils étaient des rebelles dans leur vie quotidienne. Ils étaient des jeunes vivants et c'était la, ouais, réalité. Dans,
et lutte contre les tabous sexuels aussi. Parce qu'il est beaucoup question d'homosexualité dans votre roman, oui, avec notamment deux de vos personnages qui se cherchent. L'un se demande même s'il est normal. Mm. Beaucoup de garçons se fréquentent sexuellement en Syrie et c'est interdit par la loi. Et vous racontez plusieurs histoires de califes qui avaient des, oui, relations homosexuelles. La bisexualité était presque commune à l'époque ?
Exactement, et ça se voit dans les livres historiques sur le Moyen-Orient, par exemple dans Mille et une nuits, ouais, bah ouais, ou les autres livres, les califes Harun al-Rachid, par exemple, il avait plusieurs amants dans son château. Bon, il était bisexuel. Il y avait son fils Al-Amin qui était homosexuel, ouais, 100%, qui avait un amant qui s'appelle Kawsar, qui même écrivait de la poésie sur son amant. C'était annoncé, c'était au public, c'était pas du tout discret. Et donc, un des personnages qui s'appelle Mohammed, il se réfugie dans des livres historiques. Voilà. Il lit ces anecdotes et j'ai essayé d'intégrer ces anecdotes par rapport à ce personnage.
Voilà, tout est dans l'histoire avec un grand H. Il y a des filles aussi dans votre histoire, des jeunes femmes fortes. Elles disent que la Syrie est un pays malade, qui tolère les excisions, mais qui se déchaîne contre l'homosexualité. Et tout cela, ça bouillonne dans cette jeunesse syrienne, mmh, et c'est ce qu'ils veulent changer. Ils veulent que chacun,
exactement,
puisse vivre librement.
Exactement.
Mais ça ne marche pas.
Ça ne marche pas pour plein de raisons. D'ailleurs, le rôle des femmes pendant la révolution syrienne, surtout la première année où la révolution était pacifique, était beaucoup plus fort que le rôle des hommes. Mm-hmm. Les femmes, c'est eux qui amènent les médicaments pour les militants, car ils avaient la possibilité de traverser les checkpoints.
Ils allaient les soigner, oui.
Tout à fait. Mm-hmm. Elles étaient soignées, elles étaient courageuses. Et malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ça.
Il y a ces jeunes à Damas et à Homs qui se trouvent coincés entre deux régimes politiques, celui de Bachar al-Assad et celui des frères musulmans qui, oui, veulent imposer la charia. Et Bachar al-Assad va jouer avec cette menace islamiste pour contrôler, oui, la population et éviter justement ce genre de révolte.
Exactement, et ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, le père de Bachar al-Assad, l'ancien président syrien, il a divisé la ville Homs à deux une partie, deux parties, une partie pour les alaouites et une autre partie pour les sunnites, afin que s'il y aura à l'avenir un troublement, un sort de révolution, de manifestation contre lui, ils peuvent profiter ça pour déclencher une guerre civile. Oui, et malheureusement, il arrive aussi.
Alors ça va très loin parce que quand le pouvoir maltraite justement ses révoltés, ses opposants, et qu'il arrive qu'il les tue, la famille va chercher le corps, on le voit dans votre livre, c'est, ça fait partie de l'histoire, la famille va chercher le corps, oui. On leur fait signer un papier comme quoi leur fils, leur compagnon, leur frère a été tué en martyr par un groupe terroriste.
C'est très présent dans la Révolution, il y a des centaines de documentaires, des reportages autour de ceci, afin que la famille ne parle pas dans les médias, surtout à l'extérieur de la Syrie, ne filme pas le cadavre. Il y avait un enfant qui était tué au mois de mars 2011, car il a écrit une phrase sur son école. C'est « Le peuple veut renverser le régime ». Donc les services de renseignement, ils ont arrêté cet enfant avec des autres enfants, et ils l'ont torturé à mort, et puis ils ont donné le cadavre à sa famille pour créer un très grand horreur dans la société syrienne, sauf que le résultat était tellement en inverse, c'est-à-dire il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont sorties dans leur
qui sont descendues dans la rue, ouais.
Sont descendues dans la rue pour
condamner. Ouais. Bon, trois libraires ont lu votre roman, Omar Youssef Souleymane, la France, le Canada et la Belgique. On commence par qui?
Le Canada.
Le Canada. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Alors, j'aime que vous nous rappeliez qu'au-delà des actualités qu'on lit parfois avec une certaine distance, il y a cette jeunesse qui vibre, semblable au personnage de votre roman. Vous avez un style direct qui m'a donné l'impression d'avoir davantage affaire aux journalistes qu'aux poètes. Mais on sent cette sensibilité. Et les combats de vos personnages passent par le corps, et ça, c'est une revendication de liberté que tout le monde peut comprendre.
Et les journalistes aussi, Omar. La France, ça vous va, Mathieu Colombe?
Avec plaisir. Allez,
bien moi j'ai trouvé que ce roman était aussi dur que beau, captivant, émouvant. En fait, c'est mon pas de qualité. J'ai été complètement conquis, même si le reste le récit d'un échec et que le lire équivaut à se prendre un direct dans l'estomac. Je pense que ça reste une lecture obligatoire de janvier, ne serait-ce que pour avoir un autre point de vue sur le printemps arabe.
Merci.
Bon, c'est une façon de dire les choses. La Belgique, Déborah Damblon.
Moi, ce que j'ai aimé dans votre roman, c'est la justesse et la richesse de votre ton, parce que vous oscillez entre force et tendresse pour dépeindre la dureté des situations, mais aussi la délicatesse des sentiments. Et vous faites tout ça en finesse, mais presque sans y toucher. Pourtant, tout est précis et nous, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas après vous avoir lu votre récit. Moi, j'ai trouvé que c'était un cri ou que c'était un chant. C'est à la fois très, très beau, très doux, extrêmement puissant et puis terriblement, terriblement interpellant.
Merci.
Il y a des moments incroyables dans votre livre, Omar Youssef Souleymane. Vous décrivez par exemple que les batailles la nuit avec des tirs entre les partisans du pouvoir et les opposants font éclater comme ça cette nuit. Et puis le jour, le lendemain, tout le monde se réveille et tout le monde s'invite à boire le thé sur les trottoirs. Et ce sont les mêmes personnes qui s'affrontent la nuit.
Exactement, parce que vous savez, dans une guerre civile, il y a une blague sur la guerre civile libanaise. On dit qu'il a duré de 75 jusqu'à 90. On dit que c'est lui ou celle qui a compris ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire on l'a mal expliqué. Et c'est vrai, on l'a mal expliqué parce que c'est une guerre qui était créée pour qu'on ne la comprenne pas. Alors là, on dit ça sur la guerre civile au Liban. En Syrie, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est une guerre vraiment internationale qui continue sur le territoire syrien. Et donc, ces gens-là qui ouvrent les faux contre eux, c'est exactement, c'est réel. D'ailleurs, la plupart des histoires dans le roman sont des histoires réelles ou des histoires inspirées des autres.
Alors, ils se retrouvent comme ça. Et vous racontez aussi que lorsque les manifestations ont commencé à être diffusées sur les chaînes de télé internationales, les gens restaient chez eux pour se voir la télé au lieu de descendre dans la rue à nouveau.
Tout à fait. Vous savez, les gens de Homs, d'ailleurs, Homs, c'est une ville très connue dans le monde arabe en général, comme la ville d'humour. On peut dire à peu près comme la Belgique pour la France.
Ah oui. Bon, c'est un livre très instructif. En tout cas, on apprend beaucoup de choses. C'est un récit très journalistique aussi, parce que, je le disais, vous êtes journaliste. Vous ne pouvez plus retourner dans votre pays, Omar Youssef?
Non, pas pour l'instant, parce que j'ai pas de passeport, et en plus, comme réfugié politique, mais aussi parce que le régime est toujours là. Je suis sur la liste noire du régime.
Et votre famille, quel lien avec vous?
Ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours en Syrie, et ça fait depuis 2012.
Et ils sont salafistes?
Oui et non, ça dépend de la personne de la famille. En fait, la seule personne qui m'a accepté dans ma famille, après d'être un athée ou après d'annoncer que je suis athée, c'était ma mère. Voilà.
D'accord. Bon, vous écrivez une phrase qui résume toute cette émission finalement, avec tout ce qu'on a dit. Vous dites « Je crois que si on était libre sexuellement, si chaque homme et chaque femme pouvaient vivre ses passions, la guerre prendrait fin ». Plus grave. Personne n'aurait envie de tuer qui que ce soit. Noyé dans le désir, la violence deviendrait une idée vide.
Grave, oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, pour ça, cette phrase, elle présente ces jeunes basques. Pour eux, rien ne mérite la mort. La seule chose qui est sacrée, c'est la vie.
Grave. Merci Omar. Merci Omar Youssef Souleymane. Le dernier Syrien est paru chez Flammarion, un livre à lire absolument. Merci beaucoup, à bientôt. On termine avec nos libraires et leur coup de gueule, coup de cœur, deuxième partie. Dominique Bressou en Suisse, un coup de cœur.
Oui, j'ai eu un coup de cœur pour Le cristal de nos nuits de Frédéric Lamotte. Alors le titre renvoie évidemment à l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'espace-temps de ses nouvelles. Mais là, on est en Suisse et c'est un peu l'envers du décor. Frédéric Lamotte a cristallisé la mémoire de petits drames intimes se déroulant à l'ombre de la guerre dans un pays neutre. En fait, moi je pense que c'est bien à lire juste après Miroir de nos peines de Lemaître, pourquoi pas.
Frédéric Lamotte, Le cristal de nos nuits, c'est aux éditions Bernard Campiche. Merci pour ce conseil, Dominique. On termine avec un coup de gueule canadien, Josiane Letourneau.
Oui, alors je continue aujourd'hui une série que je pourrais intituler « Ces questions que nous posent les clients ». Et cette semaine, je vous soumets celle-ci. Oui. Madame, pourriez-vous me trouver quelque chose de léger? Bon, a priori, je comprends qui ne veut pas alléger rien de moins que sa vie, sinon l'impact ravageur des nouvelles internationales. Mais ça me fatigue un peu. Il me semble qu'on déborde de distractions, non? Ouais, qu'en ce sens, il y a déjà des milliers de possibilités et que la littérature, même à travers ses œuvres les plus sombres, et c'est là sa grande force, peut réussir à nous permettre de nous évader.
Mais
bref, je vous laisse réfléchir à cette question dans l'intimité de votre conscience.
Bon, vous ne conseillerez pas Souleymane et Bouraoui, hein, du coup, parce que c'est pas léger, on va dire. Merci beaucoup, Josiane, pour ce coup de gueule.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le groupe franco-sénégalais Gis Gis Boubès. C'était Gis Gis Boubès avec un extrait de Barka Bay, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Guillaume Roux. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Swann Blanchet en France. Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Un grand merci aux auditeurs français pour leur formidable fidélité. La librairie francophone a battu son record d'audience sur France Inter depuis sa création avec plus d'un million d'auditeurs lors de sa diffusion le samedi de 14h à 15h. Millions d'auditeurs pour une émission consacrée aux livres. On n'avait pas vu ça en France depuis longtemps, radio et télé confondues. Voilà qui donne espoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine. À bientôt. Salut.